France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1988, Pascal Lismonde et Daniel Fontanarosa explorèrent ensemble le Paris souterrain. Elles découvrirent ainsi sous la ville des lumières, de mystérieux labyrinthes, des ossements séculaires, des refuges et des repères, mais aussi des moyens incomparables pour assurer le transport, le téléphone, l'alimentation en eau et en électricité de toute une énorme métropole, une ville sous la ville. Passionnant.
Grand angle, Paris souterrain. Pour connaître une ville, il faut aller voir ce qu'elle a dans le ventre. Avec son métro, ses carrières, ses catacombes, ses milliers de kilomètres d'égouts, de canalisations d'eau et de téléphones, Paris n'échappe pas à la règle. Un voyage dans les entrailles de la capitale prend des allures de franchissement du seuil. Cet envers du décor devient le miroir grossissant de la réalité ou de l'imaginaire. D'étranges populations rôdent, cataphiles, métroglodytes, égoutomane, ou le fantôme de Philibert Asper, le martyr des carrières. Leur ombre plane sur cette exploration. Pénétrons tout d'abord dans les carrières. Alain Clément, créateur de la CEDAX, Société historique des anciennes carrières et cavités souterraines, nous emmène sous l'hôpital Cochin, où l'on pourra bientôt contempler la superbe fontaine Sainte-Marie, un puits ouvragé du XVIIIe siècle, qui doit être classé monument historique. Quant à Anne Lauvergeon, inspecteur général des carrières, elle nous fait découvrir les souterrains de Denfert Rochereau.
C'est vraiment le monde minéral. Il n'y a pas de traces même de végétation quelconque. Il n'y a aucun lichen, il n'y a rien.
On n'a pas de végétation parce qu'on n'a pas de lumière ici. Par contre, on a quelques petits cavernicoles. On a des petits insectes, mais vraiment qui sont... Vous verrez tout à l'heure, du côté des squelettes, on a des petits champignons et des petites bactéries qui se développent. Et on a quelques insectes qui viennent manger ces bactéries et ces champignons.
Mais des rats, jamais?
Des rats, non, absolument pas. C'est un milieu qui est quand même tout à fait minéral.
Monde du silence.
Le monde du silence. D'ailleurs, c'est une expérience qui a été faite par des gens comme Chiffre, de s'isoler complètement dans une carrière. J'ai essayé personnellement un quart d'heure. C'est une expérience très curieuse. Vous avez un silence total, vous entendez le vide dans les oreilles, c'est un monde un peu cotonneux, l'obscurité. C'est très très curieux comme expérience.
Alors ici, nous arrivons à l'escalier conduisant à la carrière des Capucins. Ça devient de plus en plus humide là. Les marches glissantes.
La nappe de profondeur, et actuellement la nappe phréatique a atteint un niveau extraordinaire, puisque nous sommes à peu près dans cette carrière à 10 cm en dessous du niveau des inondations de 1910. Alors là, bien entendu, dans cette galerie technique, là vous avez de l'eau. Alors je vous conseille de marcher sur les parpaings pour accéder jusqu'au musée.
Et là, nous sommes à quelle profondeur? Parce que nous avons quand même descendu.
À 20 mètres de profondeur. Et vous êtes dans un épicentre géologique qui date de 46 millions d'années. Vous voyez tous ces dépôts sédimentaires, toutes ces strates qui sont bien représentées. Chaque strate donc représente un dépôt sédimentaire qui a été laissé par l'invasion de la mer dans le bassin parisien. Donc à chaque fois que la mer est invasée du bassin parisien, vous avez ce banc. Dès qu'on s'enfonce vers le pied de la carrière, vous avez un banc qui est de plus en plus homogène, très dur. Et ces bancs ont servi pour confectionner, par exemple, ce banc royal, là, vous voyez, qui était très, très, très sollicité par les carriers, puisque c'est un banc qui était très esthétique, déjà, au point de vue d'utilisation. Et on l'employait, bien entendu, pour les façades de nos très beaux immeubles qui se trouvent à Paris. Alors ici, on retrouve, comme vous allez voir, l'appellation des rues de Paris telles qu'elles étaient au XVIIIe siècle, puisqu'en fait... La partie cadastrale que l'on retrouve en sous-sol n'a absolument pas bougé depuis le XVIIIe siècle.
L'ensemble de ces carrières sous Paris se trouve finalement essentiellement sous le sud même de Paris.
Les carrières de calcaire, tout à fait, se trouvent majoritairement dans le sud de Paris, 14e, 13e, 15e arrondissement.
Dans le 16e arrondissement, on a des carrières très très particulières. Ce sont des carrières qui se situent juste sous une maison. C'est-à-dire que, visiblement, les gens ont exploité juste pour construire leur maison. Alors on se retrouve avec des micro-carrières qui sont très très difficiles de repérer et qu'on découvre au fil du temps.
Et dans la partie nord de Paris, je crois que les carrières sont plutôt en gypse.
Ce sont des carrières de gypse qui sont sous les buts témoins, Montmartre, Belleville, le Père-Lachaise. Ce sont des carrières de gypse qui ont été exploitées postérieurement à la calcaire. Elles ont été exploitées... à partir du XVIIe siècle, de manière souterraine. Avant, c'était à ciel ouvert. Et ce sont des carrières qui allaient jusqu'à 18 mètres de hauteur. Donc, qui étaient beaucoup plus hautes que les carrières de calcaire et qui posent des problèmes donc, de stabilité beaucoup plus importantes. Elles ont été, pour la plupart, foudroyées. C'est-à-dire, on a fait exploser les piliers au XIXe siècle.
Est-ce que Paris est construit sur un gruyère?
Paris est, oui, construit sur un gruyère. Nous avons 820 hectares de carrières sous Paris. Le sol parisien est vraiment extrêmement riche. Alors, au plafond, vous voyez une ligne noire que nous allons retrouver tout le long du circuit, un circuit des catacombes qui fait environ 1,7 km. Cette ligne noire a été peinte à l'origine dans les années 1830-1840. Ces carrières étant fréquentées alors par, je dirais, toute une jeunesse un peu éprise. D'aventure, et qui, pour ne pas se perdre, avait mis ce fil d'Ariane. Alors là, vous avez une plaque, il y a des plaques de pierre gravées, qui représentent, alors il y a une initiale qui est G, c'est l'initiale du premier inspecteur général des carrières, qui s'appelle Guillaumeau, donc qui travaillait dans les années 1777 jusqu'après la Révolution. Et 123, c'est la phase, le numéro de la phase de son travail. Ce qui fait que toutes les consolidations, vous verrez d'autres plaques plus loin, sont datées.
Vous disiez que ce travail de consolidation, donc qui a commencé sous Louis XVI, c'est à la suite d'effondrements très importants dans Paris.
C'est-à-dire que toute la fin du XVIIIe siècle a été marquée par des effondrements à répétition, avec très souvent mort d'homme. Et ces événements donc catastrophiques ont mené à une véritable psychose collective qui était, attention, qu'y a-t-il sous nos pieds, des gouffres immenses vont s'ouvrir et nous avaler tous. Sous-autant que ces carrières étaient aussi utilisées à des fins pas toujours très honnêtes, puisqu'elles étaient utilisées pour passer l'octroi de Paris. Il y avait un octroi qui était à Denfert-Rochereau, toujours les deux petits bâtiments de la douane que l'on connaît encore sur la place. Et donc, les contrebandiers utilisaient les carrières. Alors, ceci ajouté au fait qu'on faisait apparaître très souvent le diable dans les carrières, pour les gens qui étaient un petit peu crédules, faisait que les carrières avaient une très très mauvaise réputation. Et le fait qu'il y ait des effondrements à des endroits toujours différents, jamais prévus, etc., rendait les choses très très insupportables. Alors, il y a eu vraiment une psychose collective qui a mené à... les pouvoirs publics à prendre une décision et de dire, bon, il faut qu'on prenne en charge ce problème. Ils ont réuni une commission des sages pendant un an, qui a planché, et qui a conclu qu'il fallait créer un service pour trouver une solution à ça. Et c'est comme ça qu'a été créée l'inspection générale des carrières. Alors, en 1777, ce qui fait qu'elle s'est mise à travailler, elle a été arrêtée par la Révolution, et c'est Napoléon, très soucieux de ce problème, qui lui a vraiment donné les moyens de sa mission.
Mais si l'on ne consolide pas, quel est le risque financièrement, entre autres?
Alors, le risque financier, il est énorme. C'est-à-dire qu'il y a non seulement un risque en vie humaine, qui est bien sûr très grave, mais aussi un risque financier, puisqu'on considère que d'intervenir en curatif et non pas en préventif coûte 5 fois plus cher, en moyenne. Donc, tout notre travail à l'Inspection Générale des Carrières, c'est de faire de la prévention.
L'expression « aller au diable vos verres », ça veut dire quoi exactement ?
C'est une expression qui date du XIIIe siècle, puisque les Chartreux, avant de s'implanter au Luxembourg, ont trouvé toute une espèce de faune souterraine de gens, des pauvres gens de l'époque, qui s'étaient réfugiés là et qui, en fait, donnaient un lieu très malsain dans le secteur, parce que personne n'osait s'aventurer dans les environs du Luxembourg actuel. Donc, à l'époque, tous les braves parisiens, bien pensants, avaient cette sainte trouille d'aller dans le secteur et on disait aller au diable vos verres, donc c'était aller dans le secteur du Luxembourg.
Il y a dû avoir pendant la Révolution des gens qui se sont cachés aussi dans les carrières.
Disons que à chaque conflit, effectivement, il y a eu, les carrières ont servi. Hein. Ne serait-ce que pendant la dernière guerre, vous aviez au nord les Allemands qui s'étaient implantés au niveau du lycée Montaigne, et vous aviez bien entendu dans le sud Roll Tanguy qui était implanté dans Ferrochaux, comme tout le monde sait, au moment de l'insurrection. Disons que l'on retrouve antérieurement, effectivement, que ça soit en 14-18, que ça soit, enfin surtout en 14-18, mais là c'est un peu différent, c'était surtout les carrières de laine qui servaient d'abri, puisque là nous étions en plein dans le champ d'action de la guerre. Mais disons qu'on retrouve également, effectivement, une utilisation de ces carrières, ne serait-ce que pendant l'époque des fermiers généraux, il y a eu énormément de contrebande qui s'est fait par ces voies souterraines.
Parce qu'en fait, on pouvait circuler d'un bout à l'autre de Paris.
Oui, bien sûr, parce qu'en fait, on pouvait très bien rentrer, par exemple, dans la partie nord, c'était au niveau du Luxembourg, et sortir Arcueil. Donc vous voyez, ça vous donne quand même une quinzaine de kilomètres de circulation.
Et quand vous parliez des Allemands tout à l'heure, c'est des résistants qui se sont cachés ici ou c'est les Allemands eux-mêmes qui avaient pris qui s'étaient implantés dans les carrières ?
Ce sont les Allemands qui s'étaient implantés dans les carrières, donc on retrouve une véritable, sous le lycée Montaigne, une véritable infrastructure de petites cités, tout compte fait, avec des portes blindées qui étaient étanches au gaz, qui servaient bien entendu surtout d'abri au moment des bombardements.
Anne Louvergeon, nous nous trouvons ici, donc, au fond des catacombes, à l'entrée même. Pouvez-vous nous dire déjà depuis quand existent les catacombes elles-mêmes ?
Alors, ces catacombes, on peut dire, il y a deux phases. Hein. Il y a le côté carrière. Ces carrières sont très anciennes. Elles datent du 15e ou du 16e siècle. Par contre, le côté catacombes, c'est-à-dire entasser des morts dans ces carrières, ça date de la fin du 18e siècle. Effectivement, les cimetières de Paris étaient pleins, complètement pleins. Le cimetière des Saints-Innocents, c'est bien connu, débordait de squelettes. Et puis, en même temps, il y avait un refus de garder ses morts dans la cité.
Il y avait des risques d'épidémie aussi, je crois, assez graves.
Tout à fait, il y avait eu quelques horreurs, en particulier des gens qui avaient été empoisonnés par les émanations du cimetière des Innocents. Tout à fait empoisonnés au sens propre du terme. Il y a des ossements qui sont tombés dans certaines caves, et puis il y avait des ossements aussi qui pointaient hors de la terre. Enfin, le cimetière était quelque chose de très folklorique. Hein. Alors, à partir d'un certain moment, il y avait trop d'ossements, il y avait, vous savez, des ossements qu'on envoie à travers des puits, ça foisonne, il n'y avait plus assez de place, et il a été décidé de les ranger pour gagner un peu de place. Et c'est ce qu'a fait l'inspecteur général des carrières qui s'appelait Héricard de Thury, et la brigade de régie de l'inspection et des ouvriers qui, pendant 40 ans de leur vie, ont rangé des ossements. Sur le fronton, on a une interpellation aux promeneurs. Arrête, c'est ici l'empire de la mort. Nous entrons donc dans l'ossuaire municipal, qui est un lieu sacré. Nous verrons d'ailleurs qu'il y a dedans une chapelle, où ont donc été entassés pendant 2 siècles les ossements de tous les Parisiens qui ont vécu dans les siècles passés.
Alors pénétrons dans l'empire de la mort.
des dents, oui.
Il y a trois dents.
Oui.
Ouais,
un crâne avec des dents.
C'est vrai, c'est rare. Donc, alors, comment sont disposés tous ces ossements? On a un rangement qui peut paraître très, très méthodique, et effectivement qu'il l'est, qui correspond au minimum d'encombrement stérique pour l'ensemble de ces ossements. Alors, les os longs ont été placés devant. Tous les petits os autres ont été placés derrière. Donc, il y a des murs d'ossements longs, des petits ossements derrière. Et les crânes qui ont échappé à la chute, parce que tous ces ossements sont tombés de 20 mètres de haut dans des puits. Donc, beaucoup ont été fracassés et abîmés. Les crânes qui ont échappé à la destruction sont mis en décoration devant. Ces crânes, on était obligé de les cimenter parce que les gens les volaient.
Mais c'est vraiment dur qu'on connaîtra les siens, parce que on serait bien incapable de reconstituer un corps en son entier.
Ah, tout à fait. C'est-à-dire, c'est vraiment le grand anonymat de la mort. Tous les crânes, tous les ossements sont mis dans le désordre complet. On sait qu'il y a des gens très célèbres, enfin qui ont été très célèbres, qui sont là.
Comme qui, par exemple?
On a Molière, il y a Robespierre, Danton, enfin tous les révolutionnaires sont là. On a beaucoup d'hommes du XVIe, du XVIIe siècle. On a beaucoup de gens célèbres.
Anne Lauvergeon, vous disiez qu'il y a actuellement des problèmes de contamination ou d'altération de certains de ces squelettes.
Oui, je crois qu'il faut parler d'altération. On a constaté effectivement que certains ossements présentaient une friabilité plus importante. On a l'impression que certaines bactéries ou champignons se développent. Nous avons pu constater que la température moyenne du réseau des catacombes s'était élevée, c'est-à-dire qu'une carrière classique, c'est à 13 degrés. À l'heure actuelle, dans les catacombes, on est à 15 degrés. On peut constater aussi que le succès des catacombes entraîne bien sûr une production de dioxyde de carbone, de gaz carbonique. Et en même temps, le fait d'allumer, puisque les catacombes sont ouvertes tous les après-midi, d'allumer pendant 3 heures, n'est peut-être pas étranger au développement de certaines bactéries.
Mais vous parliez de 10 à 15 siècles éventuellement, c'est-à-dire il y a des ossements qui auraient cet âge-là qui sont ici.
Ici, on retrouve tous les grands cimetières de Paris. Cimetières qui, pour certains d'entre eux, semble-t-il, existent depuis les débuts de l'ère chrétienne et peut-être même étaient à l'origine des cimetières gaulois, repris par la chrétienté. On compte qu'il y a environ 6 millions de squelettes.
Ainsi, tout passe sur la terre, esprit, beauté, grâce, talent. Telle est une fleur éphémère que renverse le moindre vent. Tout le parcours des catacombes est un véritable labyrinthe, parce qu'on a l'impression de tourner en rond au bout d'un certain temps.
Eh bien, effectivement, on fait 1,5 km sans tourner en rond, mais je crois qu'on perd un sens de l'orientation très vite. Hein.
Là, c'est la sortie. Hein. Écoutez, ossements arides, écoutez la voix du Seigneur, le Dieu puissant de nos ancêtres, qui d'un souffle créa les êtres, rejoindra vos nœuds séparés. Vous reprendrez des chairs nouvelles, la peau se formera sur elle, ossements secs, vous revivrez. Le franc de Pompignan. Paolo Piccinato, vous avez un projet d'exposition dans les carrières de Paris. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous voulez exposer dans les carrières, tout d'abord?
Je voulais exposer dans les carrières parce que j'avais cette espèce d'envie de prendre le public et l'amener dans le sous-sol comme des grains à semer, vous voyez. Et bon, il faut penser aussi que ma peinture, en étant la métamorphose du langage, donc le langage qui se transforme en couleur et matière, en retournant, soi-disant, à une origine, mais à une origine cosmique, donc c'est une origine actuelle, J'ai trouvé que ces tableaux, en rapport à la matière du sous-sol, en quelque sorte, c'était la matière même du sous-sol qui devenait langage. Elle commençait, si vous voulez, un nouveau discours. Donc ça m'a intéressé que le public soit en contact avec cette expérience. Bien sûr que ce n'est pas très facile de faire descendre les gens dans les sous-sols, parce que les accès sont quand même assez petits pour descendre, pour qu'est-ce que j'ai vu à Paris, pour qu'ils m'ont montré. Donc c'est quelque chose qu'il faudrait faire plutôt avec, je sais pas, la télévision, le faire descendre là-bas, et que les gens restent en haut et suivent cette descente. Et les tableaux, les malheureux ne peuvent pas rester plus de 2 heures, même si leur signifiait qu'ils peuvent résister pour des siècles. Mais donc, il n'y a rien à faire. Il faudrait que ça soit aidé par les moyens actuels. Vous voyez.
L'agglomération parisienne repose sur une série de nappes aquifères profondes. Mais pour la mise en place de réseaux de distribution de l'eau, il a fallu attendre Haussmann et l'ingénieur Belgrand, grand maître du Paris souterrain. Aujourd'hui, la capitale compte 2 énormes réseaux, l'un de 1600 km pour le lavage des rues et le coulage des caniveaux, et l'autre de 1800 km pour l'eau potable. Le Parisien dispose ainsi de plus d'un million de mètres cubes par jour, grâce à 3 réservoirs, à Ménilmontant, Saint-Cloud et Montsouris. Au nord de la capitale, la distribution est gérée par la Compagnie des Eaux de Paris. Et le sud, par une filiale de la Lyonnaise des Eaux, la Société Parisienne des Eaux. Avec Jacques Stévens, son directeur, nous voici dans le réservoir d'eau de Montsouris.
Nous sommes ici au réservoir de Montsouris, précisément dans la salle où les aqueducs se déversent dans le réservoir. Vous entendez et vous voyez l'ensemble de ce faramineux débit d'eau de source totalement naturelle, juste désinfectée d'un peu de chlore afin de permettre en toute sécurité son transport. Et ce grand débit, actuellement, n'est pas totalement consommé par les Parisiens, donc le trop-plein, si vous voulez, s'évacue et se stocke dans le réservoir.
L'eau a effectivement une couleur absolument splendide, elle est d'une limpidité absolue.
Oui, cette eau est assez caractéristique de la région. C'est une eau qui nous provient de la craie et vous verrez qu'elle a une légère coloration bleutée en forte épaisseur. Nous avons 2,50 m d'eau et sur cette épaisseur-là, on a l'impression d'y avoir mis des sels de bain. Je vous garantis qu'il n'y a aucun colorant. Cette eau a pris son énergie dans son long parcours depuis la source à 100 ou 150 km de Paris et cette énergie finalement s'épanche au moment où, arrivant dans le réservoir, toute cette vitesse est perdue en quelque sorte dans les remous. C'est le trop-plein d'énergie de ces eaux accumulées tout au long des kilomètres.
Mais le fait que le réservoir soit à peu près au même niveau que Paris, même ou simplement un petit peu plus haut, ça n'est pas un problème ?
En réalité, le réservoir où nous sommes actuellement est à 74 mètres au-dessus de la mer. Les quartiers les plus bas de Paris, qui sont le long de la Seine, sont aux alentours de 30 à 35 mètres au-dessus de la mer. C'est-à-dire qu'on dispose de 40 mètres de hauteur d'eau, nous dirions 4 barres de pression, ce qui permet facilement de desservir l'ensemble du centre de Paris. Les quartiers les plus élevés, le quartier où nous sommes par exemple, sont desservis au moyen de systèmes de surpression, de telle sorte que les immeubles qui nous entourent soient normalement desservis. Nous sommes actuellement dans un des grands réservoirs qui alimente Paris, celui qui alimente le centre de Paris en l'occurrence. Il est 19h, le réservoir a bien baissé depuis ce matin, heure à laquelle il était plein, parce que les Parisiens ont normalement consommé dans la journée. Cette nuit, ce réservoir va remonter parce que l'eau qui arrive régulièrement à débit constant depuis les aqueducs de province va le renourrir, alors que le Parisien va consommer beaucoup moins, bien sûr. L'activité économique et l'activité de chacun d'entre nous est un peu ralentie au cours de la nuit.
C'est un réservoir d'eau potable, bien entendu, uniquement. D'où cette limpidité de l'eau qui a ce reflet vert. Et l'aspect du réservoir lui-même est absolument fabuleux parce qu'on a l'impression d'être dans une sorte de cathédrale romane, même, si l'on peut dire. Et quelle est la capacité du réservoir ici, dans lequel nous nous trouvons? Parce qu'il a l'air immense. On voit ça va jusqu'à combien? 50 mètres à peu près?
Oui, en fait, c'est un ouvrage qui fait 125 mètres sur 250 à peu près et qui actuellement contient, pour l'étage où nous sommes, puisqu'il a deux étages, 125 000 mètres cubes, 125 millions de litres ou 125 000 tonnes. C'est un ouvrage, vous le disiez fort justement, qui a une allure romane avec des croisées d'ogives. C'est la seule cathédrale romane du 19e que je connaisse, pour vous dire le vrai. Il a été érigé en 1874. En maçonnerie tout à fait traditionnelle, bien entendu, ici avec de la meulière à l'étage supérieur avec des briques. Et cet ensemble n'a subi aucune défaillance depuis 110 à 115 ans maintenant. Et vous voyez qu'il est dans un état tout à fait parfait et que l'eau qui y réside est d'une parfaite limpidité. La couleur que vous y voyez est un peu émeraude et la couleur tout à fait naturelle des eaux qui nous viennent de la craie, de la région de Provins ou de Sens.
Mais c'est absolument splendide. C'est un côté bleu des mers du sud sans le soleil, en fait, puisque nous sommes en souterrain.
Et sans les poissons.
Vous ne vous frottez pas, vous pouvez vous permettre de l'est.
Nous sommes ici, juste au pied du réservoir, sous l'ouvrage, et nous sommes déjà sous le sol de la voirie. Alors si nous poursuivons dans cette direction, vous voyez que le tuyau s'enfonce dans une galerie et au bout de quelques dizaines de mètres, cet ensemble est fermé par une lourde grille qui communique avec le monde des égouts, monde dans lequel la plupart de nos canalisations circulent puisque l'ensemble du réseau avait été posé au sein même des égouts, ce qui permettait une simplification de travaux à la fin du siècle dernier. On ne faisait qu'une tranchée dans les rues et qui a facilité la maintenance des tuyaux, puisqu'aussi bien, se promenant dans les égouts, on est capable de vérifier leur état, d'intervenir s'il y a un dysfonctionnement ou besoin de les protéger, tels ceux-ci, voyons, probablement été repeints assez récemment.
Les incidents, bien entendu, ce sont des fuites, des problèmes de vétusté parfois de certains tuyaux.
Tout à fait. La vie d'un réseau est intimement liée à la vie du sous-sol. Lorsque le sous-sol bouge un tant soit peu, lorsque l'eau que l'on fait véhiculer dans les canalisations change de température, ce n'est pas le cas des eaux de source, mais c'est le cas des eaux de Seine ou de Marne qui sont traitées, fraîches l'hiver, plus tièdes l'été, il y a des contraintes qui s'exercent sur les tuyaux, et ces contraintes finissent souvent par se résoudre par des ruptures. Et là, c'est quelquefois un incident bénin lorsqu'il s'agit d'un ouvrage de petite taille, lorsqu'il s'agit d'un ouvrage de la taille du type de ce que vous voyez ici. Il s'agit en général d'un syndrome beaucoup plus aigu qui peut entraîner des désordres très importants au domaine public, à la voirie, au métro, aux égouts. Je me souviens de tel incident il y a un an qui avait réussi en quelques minutes à déplacer une quinzaine de voitures sur la chaussée.
Quand la Rome antique avait déjà sa grandiose Cloaca Maxima, il a fallu attendre le XIVe siècle à Paris pour avoir les premiers égouts maçonnés. Mais c'est surtout Belgrand, le Haussmann des égouts, qui a doté la capitale d'un réseau de drainage efficace qui dure encore aujourd'hui. Un réseau essentiel pour la vie de la capitale, où l'on retrouve tout, même les bagues et les clés perdues. François Legrand, chef de la section de l'assainissement de Paris. Alors ici, nous nous trouvons où, François Legrand?
Écoutez, ici, vous êtes devant un ouvrage important, puisqu'il s'agit de l'émissaire sud, qui est un ouvrage qui reçoit donc des eaux déjà pré-traitées, puisqu'elles ont été désablées sur des bassins de dessablement, et elles conduisent les eaux par l'intermédiaire donc de l'émissaire sud et après du Sèvres à Cher jusqu'à la station d'épuration d'Acher, ou là où elles sont traitées. Alors là, on change de propriétaire d'ouvrage, puisque cet ouvrage n'est pas un ouvrage communal, mais un ouvrage propriété du syndicat interdépartemental. Vous êtes devant le collecteur Bosquet, qui est un ouvrage qui prend sa source près de la tour Montparnasse. Et c'est un ouvrage qui débite environ 2 mètres cubes seconde en période de temps sec. Et en période de pluie, son débit peut être multiplié par 5 ou 6.
C'est un couloir qui fait quel diamètre à peu près ?
Là, c'est un ouvrage qui fait 3 mètres de diamètre. Et les trottoirs latéraux que vous avez... font à peu près, là ce sont des ouvrages qui font un mètre de large.
Il y a des collecteurs de la sorte qui sont sous l'ensemble du territoire parisien.
Oui, bien sûr. Vous avez enfin tout un réseau sous le collecteur, sous le territoire de Paris. Et notamment, vous avez les grands collecteurs sur la rive droite. Il y a 3 grands collecteurs, Clichy, Asnières et Marceau, dont la longueur moyenne fait 7 km et converge vers la commune de Clichy, où là, ils rejoignent le réseau du syndicat interdépartemental d'assainissement. Les eaux, après avoir été subi un pré-traitement, donc un dessablage et un dégrillage, sont envoyées dans des émissaires, qui sont de gros ouvrages, puisqu'ils font 4 mètres de diamètre. Leur pente est très faible, et elles vont donc après jusqu'à la station d'épuration d'Acher, après avoir recoupé les méandres de la Seine.
Mais l'eau circule de cette manière, disons, ouverte, elle n'est pas dans des canalisations ?
Ah non, si vous voulez, le réseau parisien est un réseau absolument pas canalisé. C'est un réseau qui fonctionne comme des canaux à plan d'eau libre. C'est toujours à plan d'eau libre.
Alors là, nous nous trouvons où exactement ?
Là, vous êtes au débouché d'une des antennes du collecteur de Bièvre. Le collecteur de Bièvre est très important puisqu'il capte toutes les eaux de la rivière Bièvre qui va chercher ses eaux vers Saint-Quentin-en-Yvelines. Et ces réseaux traversent le département de l'Eure. Enfin, la rivière Bièvre, si vous voulez, a un cours aérien et pas pollué jusqu'à Antony à peu près. Et là, Antony, elle rentre dans Paris à la poterne des Peupliers et se retrouve après avoir traversé... un certain nombre de rues, la rue Sancier, elle passe sous la rue des Écoles, après elle prend une partie du boulevard Saint-Germain, elle passe après sous la rue de Lille, et elle se retrouve donc à ce point. Mais elle a une possibilité de bifurcation, puisqu'on peut la faire passer aussi sur la rive droite, par l'intermédiaire de juste devant l'Assemblée nationale, par le siphon qui se trouve sous la Seine, et qui se retrouve donc de l'autre côté, à la place de la Concorde.
Mais en principe, les égoutiers passent dans ce genre de canal, ici ?
Ah ben là, si vous voulez, le niveau des eaux est très élevé. Vous avez les bancs, c'est exactement le même type de collecteur. C'est un collecteur avec une cunette centrale, donc un canal central, là qui fait 2,20 m de large et à peu près 1,50 m de profondeur. Et sous les mains courantes que vous avez à côté de vous, vous avez à un mètre plus bas, vous avez le même trottoir sur lequel le personnel se déplace. Donc il y a à peu près là, 50 cm d'eau au-dessus du trottoir sur lequel le personnel se déplace.
C'est-à-dire qu'ils passent dans ce canal sur le côté.
C'est ça.
Ils n'ont vraiment pas intérêt à tomber alors.
Vous avez n'importe comment, si vous voulez. Vous ne pouvez pas descendre dans un réseau d'égouts compte tenu des problèmes de sécurité. Il faut un minimum d'adaptation au site, qui est quand même un site, c'est un site dangereux, si vous voulez.
Et alors, cette odeur que l'on sent un peu douceâtre, fétide, c'est une odeur constante dans tout le réseau, où il y a des endroits où elle est même encore un peu plus nauséabonde.
Non, si vous voulez, le problème des odeurs, vous avez effectivement ici, vous avez un phénomène d'accumulation d'odeurs, puisque vous avez un bassin de dessablement qui va être extrait, mais sinon le réseau ne sent absolument rien, et il n'y a jamais de problème d'odeur. Caractéristique du réseau, c'est légèrement fétide, mais c'est très très faible comme odeur. L'égout dans lequel est descendu Jean Valjean, il faut relire les Misérables, si vous voulez, c'est l'ancien grand égout qui a complètement disparu. et qui se trouvait sous la rue de Provence, qui se rejetait vers, directement en Seine à l'époque, vers le Trocadéro. Et bien sûr, il y avait des regards comme aujourd'hui, mais il n'y avait pas une organisation systématique de l'exploitation comme c'est fait maintenant. Alors ces égouts étaient... j'étais pas là pour le voir, mais vu les écrits qu'on peut voir, c'était des égouts qui étaient complètement sablés et dans lesquels il y avait de grands dangers de descente puisque le curage n'était pas effectué en heure et en temps.
Il y avait en particulier les rats.
Ah ben les rats, si vous voulez, les rats existent toujours, mais peut-être la grosse différence, c'est que toutes nos équipes, le rat est l'ennemi héréditaire de l'égoutier. Et nos égoutiers, les équipes d'égoutiers, qu'elles soient curage, maintenance, font systématiquement des campagnes d'ératisation. Et on fait aussi des campagnes d'ératisation coordonnées avec la préfecture de police. Si vous voulez, où on coordonne donc toutes nos activités de dératisation.
Il y a notamment une maladie, la leptospirose, qui est un grand danger en particulier, maladie qui est liée aux urines de rats.
Oui, bien sûr, la leptospirose est une maladie, si vous voulez, ça se présente comme une jaunisse. Et effectivement, c'est donné par le leptospire, qui est véhiculé par tous les rongeurs, notamment le rat. Il y a trois maladies professionnelles qui sont reconnues, qui sont typiques du personnel égoutier. Vous avez bientôt la leptospirose, la brucellose et le tétanos. Et bien sûr, le personnel, pour éviter d'être malade, si vous voulez, est contrôlé en permanence par les services du médecin-chef.
Et si on tombe, on meurt ?
Pas obligatoirement, mais si vous voulez, d'abord, d'une part, il faut faire attention quand on se déplace dans le réseau d'égouts. Mais si vous voulez, quand un égoutier ou un agent du service tombe dans le réseau, dans les effluents, bien sûr, il est après contrôlé par les services hospitaliers.
Par exemple, quand il y a des orages très violents, le niveau monte assez brutalement, je crois.
Le réseau parisien, conçu par Haussmann, c'est un réseau unitaire. Alors que ça veut dire unitaire ? Ça veut dire qu'il reçoit à la fois les eaux usées et les eaux pluviales. Gravitaire, bon, il fonctionne en majorité comme une rivière, donc au fil de la pente des ouvrages. Et une des caractéristiques particulières du réseau parisien, c'est qu'il est visitable. Pourquoi visitable ? Parce que la conception de l'époque, c'était de faire des réseaux d'égouts à la fois utiles pour véhiculer les eaux usées et pluviales et également pour y placer, donc jouer le rôle de galerie technique et donc de pouvoir y loger à l'époque les conduites d'eau. Bon, actuellement, le réseau reçoit bien sûr d'autres concessionnaires. Une partie des KPTT, c'est une gêne pour notre personnel et pour l'exploitation. Vous avez une partie des conduites d'air comprimé et on a aussi des câbles, si vous voulez, qui permettent la transmission des informations pour les feux tricolores. Et on a aussi, on utilise parfois le réseau pour permettre le transport d'informations, notamment des réseaux coaxiaux pour les systèmes informatiques.
Toute la vie de Paris passe par les égouts finalement. L'eau, le téléphone et les feux de circulation.
Ben, si vous voulez, n'importe comment, la vie de Paris, vous la retrouvez. Ça, toute la vie de Paris, vous la retrouvez quand même dans les égouts. Enfin, tout au moins, c'est la vie transformée, ce qu'il en reste.
Et le fait que les Parisiens jettent à peu près tout et n'importe quoi dans les égouts, depuis les substances toxiques jusqu'à tout ce qu'on veut, ça ne pose pas des problèmes particuliers ?
Bien sûr que si. Théoriquement, on ne doit pas déverser de produits toxiques vers le réseau d'égouts. Par exemple, un acide, si vous voulez, peut provoquer des réactions chimiques telles qu'il y a une attaque du réseau et également des risques d'intoxication du personnel. Donc les acides, c'est largement prohibé. Il y a toutes les substances d'ailleurs, si vous voulez, qui risquent par mélange de provoquer des dégagements.
Il y a combien de kilomètres d'égouts sous Paris ?
Ben, écoutez, il y a 2100 kilomètres de réseau. Vous voyez que c'est un réseau important.
Paris-Istanbul.
Paris-Istanbul, oui.
des escaliers mécaniques, portillons automatiques, couloirs de correspondance, hors de pointe et d'affluence, fourmilières en mosaïque, labyrinthe fantastique, et toujours en courant, des gens qui vont et qui viennent, et encore en courant, les mêmes gens qui reviennent.
Les entrailles de la terre. La bonne et douce chaleur du métro. Dehors, il pleut, il vente, il neige, il y a du verglas, il y a de la boue, il y a des voitures qui veulent vous mordre. Et puis, voilà le métro qui vous attend, la bouche ouverte. Oh, la bonne, la douce haleine. On descend gaiement l'escalier, il fait de plus en plus chaud. On oublie la pluie, le vent, la neige, le verglas, la boue, les voitures. Une femme charmante ou un bon noir fait un petit trou bien rond dans votre rectangle de carton. Et vous voilà bien au chaud, dans la bonne et douce chaleur du métro.
On ne poinçonne plus les tickets de métro parisien. À 88 ans, ce réseau de transport indispensable, conçu par Fulgence Bienvenue, est en perpétuel rajeunissement. On a abandonné les vieilles voitures Sprague, vertes et rouges, pour des voitures à pneus. Et le RER, lancé en 1961, traverse désormais Paris à grande allure depuis 7 ans. Mais au-delà des considérations techniques, quelle société nous révèle le métro et le RER avec leurs 6 millions de voyageurs quotidiens? Philippe Caron, attaché de presse RATP, et Marc Auger, professeur à l'École des hautes études en sciences sociales, auteur d'un ethnologue dans le métro.
L'ensemble du système du métro, c'est un monde en soi, c'est un monde de règles. Il y a des interdits, il y a des prescriptions, donc c'est un monde tout à fait codé. Et puis c'est aussi une espèce de reflet intime, de reflet interne du monde de la surface. Ne serait-ce que parce que, après tout, quand on est dans une station de métro, on sait à peu près où on se trouve dans Paris. C'est donc le Paris souterrain avec sa vie propre et l'équivalent de ce qu'on voit à la surface. Il y a tout le monde de la publicité, notamment. Il y a tout le monde des activités qui se déroulent sous terre parce qu'on n'y a plus de place que sur la terre. Après tout, si on veut rencontrer des musiciens spontanés, si on veut rencontrer des attroupements autour de quelques prestataires de services, eh bien c'est plutôt dans le métro qu'il faut aller. Avec une connaissance un peu fine des choses, même, on sait où on peut entendre de la musique classique, où on peut entendre du jazz, où on peut entendre des musiciens africains, etc. Et c'est un monde de transition, c'est-à-dire que nous empruntons le métro, comme l'on dit, pour aller de chez nous au lieu de travail, ou bien pour aller à des rendez-vous. Nous changeons de monde en prenant le métro. Il arrive même que ce soit des changements de monde assez importants. Si nous sortons le soir, par exemple, nous passons donc de la vie professionnelle à la vie de festive, ou bien à tel ou tel aspect de notre vie privée. Puis il y a une mémoire dans le métro. Alors il y a la mémoire que sanctionnent en quelque sorte les noms des stations. Bien entendu, Bastille, Louvre, Concorde, Tuileries, ça renvoie non seulement à des lieux, mais à des événements de notre histoire. On a à fréquenter le métro une idée des modes, une idée aussi de la différence des quartiers. Il y a des lignes plus chics que d'autres, il y a des endroits de lignes qui sont différentes d'autres endroits, avec parfois des choses assez contrastées. Par exemple, je sais pas, du côté des Champs-Élysées, ce sont des lieux de travail essentiellement, et beaucoup de bureaux, etc. Ce qui fait que le métro est fréquenté par des gens qui travaillent. Et si on remonte à la surface, on s'aperçoit bien sûr qu'il y a aussi un monde d'argent, d'élégance, etc. Sous la terre ou dans les escaliers du métro, on s'aperçoit que c'est une réalité plus complexe, plus composite.
Voilà, là on est à l'intérieur de la cabine, donc, avec première vue sur la ligne.
Voilà, c'est ça.
Qu'est-ce qu'on entend, cette forme de tic-tac? C'est quoi?
C'est le tacro, tachymètre.
C'est-à-dire?
Tous les mouvements du train, la vitesse du train, les arrêts du train, le temps de stationnement dans chaque station, même au-delà, quoi.
Thank you. Là, c'est la fameuse station Bastille.
Voilà. Très tortueuse. Hein.
Très tortueuse, la Bastille.
Ah oui, je pense que c'est l'endroit du réseau qui est le plus difficile.
Pourquoi ? Parce que la voie fait un coude, là, on voit.
Des courbes successives et très prononcées.
Et qui sont liées à quoi ?
Eh bien, on passe le canal Saint-Martin et puis il se fait que le tunnel devait être fait dans ces circonstances-là.
C'est-à-dire que ça ralentit la vitesse, je suppose.
Ah bien, vous voyez, on a passé à 20 km à l'heure maximum, toutes ces courbes successives de Bastille. Et on reprend progressivement de la vitesse avec l'éloignement des courbes.
Marc Auger, les étrangers, quand ils empruntent le métro à Paris, retiennent toujours la tête triste des gens, des Parisiens. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je ne sais pas si elle est triste, mais elle est toujours assez fermée, enfin pour l'essentiel. C'est-à-dire qu'on a vraiment le sentiment que ce sont des solitudes côte à côte. C'est très clair. Alors il y a ceux qui sont absorbés dans une activité quelconque. Il y a des dames qui tricotent ou qui lisent un livre, ou il y a la lecture du journal, etc. Mais pour beaucoup, c'est vrai, il y a ce visage un petit peu impassible qu'on a lorsque, ma foi, on est en situation de ne penser à rien ou de penser tout seul. Il y a de temps en temps des contacts aussi. Un petit événement peut créer la chose. Néanmoins, c'est vrai, l'image de la solitude et du caractère enfermé est très nette. Et ça se voit bien lorsque un musicien rentre dans un wagon. Alors il y a ceux qui accueillent ça avec gentillesse. Puis il y en a d'autres dont on voit qu'ils se recroquevillent encore un petit peu plus. Je suppose que ça n'est pas pour faire nécessairement l'économie de 50 centimes, mais c'est parce qu'il y a comme une espèce d'agression du fait de cette intrusion. Alors, tout le monde dans le métro, mais chacun chez soi. C'est vrai que c'est une image que l'on peut avoir.
Philippe Caron, l'avènement du RER, ça a été une petite révolution, en fait, dans le domaine des transports à Paris.
Certainement, oui, l'avènement du RER, compte tenu du fait que l'implantation des villes nouvelles qui allaient s'implanter tout autour de Paris, donc du quartier La Défense, Cergy-Pontoise, Évry-Ville-Nouvelle et sur la partie est, Torcy-Marne-la-Vallée, il fallait effectivement une desserte grand gabarit, rapide, pour assurer donc les relations entre Paris, population, les emplois qui se trouvaient de part et d'autre de la capitale. Et seul le RER pouvait réaliser cette opération dans de bonnes conditions, à tel point que d'ailleurs que la ligne A du RER a connu un succès fabuleux, puisque à l'heure actuelle, à l'heure de pointe la plus chargée, il y a plus de 50 000 voyageurs par heure qui transitent dans les différentes stations du tronçon central.
50 000 voyageurs par heure ?
Oui.
Et ça fait combien par jour ?
Par jour, sur l'ensemble du réseau RER, il y a 1 250 000 voyages effectués.
Et qui sont inclus dans le trafic métro ou qui sont spécifiques au RER ?
On ne parle là que des gens spécifiquement RER. Hein. Le métro, quant à lui, draine 4 800 000 voyageurs. Enfin, du moins, on compte 4 800 000 voyages effectués. Le RER, 1 300 000.
En cas d'arrêt, même prolongé, le métro tombe en panne. Les lumières s'éteignent, silence, personne ne bronche, pas un bateau qui bouge, pas un pêcheur dans l'eau, pas un falot. Un plaisantin fait ouh, ouh, et voilà que des catacombes et des égouts s'amènent tout un peuple de fantômes qui chantent la Carmagnole sur un air de Guillaume de Machaut et le Diaziré avec accompagnement de chalumeaux. Les dents longues et le nez creux, ils descendent des affiches sur lesquelles ils se cachent, ils vont de large en long, arpentant les wagons obscurs, en faisant des courants d'air froids. Quelqu'un éternue. En même temps, la lumière est revenue. Personne ne bronche, pas même les images sur les murs. Le métro repart.
Un brave homme d'employé qui le matin sur le quai fait des 8 compliqués. Métro, c'est le journal à 8 francs qu'on lit debout en roulant, gêné par un chapeau. Métro, c'est la dame qui se déplace pour se voir dans la glace d'un air indifférent. Métro, chef de train qui s'embête et joue sur sa trompette un petit air rigolo, c'est le métro.
Il y a plusieurs sortes de métros, vous savez, il y a le premier métro. Il y a au contraire les métros du côté de la gare Saint-Lazare aux heures de pointe, ça c'est encore autre chose. Il y a le métro du dimanche après-midi, vous savez, ce métro un peu vide, un peu calme, où on peut avoir le sentiment que le service public est au service de chacun, en effet. Il y a une espèce de confort là, à ce moment-là. Il y a des métros très différents. Puis il y a des métros qui partent à l'aventure vers ces frontières extra-parisiennes que les vieux parisiens connaissent moins bien, ces lignes qui se perdent du côté des zones périurbaines. Il y a des stations de métro où c'est Beaubourg en permanence. Il y a quelques places dans Paris à la surface comme ça, où se crée une espèce de vie, de convivialité, de cérémonie festive. Je pense qu'à l'intérieur du métro, on a plus de lieux pour cela. Bien sûr, il y a d'autres choses. Il y a tous les fantasmes de la société moderne qui s'y expriment. Celui de l'insécurité, celui de l'étranger, celui de la fréquentation multiple, du mélange des races, du mélange des cultures, etc. Alors, moi, je crois que tout cela, en fait, ne vit pas trop mal dans le métro. Et que, de ce point de vue, le métro serait plutôt un spectacle rassurant. Alors, je n'ignore pas que on y voit aussi des forces de l'ordre qui patrouillent et qu'une certaine idée de l'insécurité s'attache à certaines stations, à certaines heures, à tout le moins. Mais de ce point de vue, oui, on est dans un certain reflet de ce que certains pensent être la réalité.
Caron, l'un des problèmes essentiels aussi du métro à Paris, c'est tout ce qui touche à la sécurité. Et qu'est-ce que vous en pensez vous-même ?
La sécurité dans le métro, on peut dire que depuis une bonne dizaine d'années, on assiste, hélas, à un accroissement donc du vandalisme, des déprédations qui se manifestent donc à l'intérieur des rames, dans les couloirs, sur les quais, dans les stations. Et donc c'est lié effectivement à un phénomène de crise sociale, crise du chômage, crise de l'emploi, crise du logement. Les jeunes, dans leur ensemble, enfin une grande partie, essaient de se retrouver. Le métro est un lieu privilégié parce que parallèlement, la RATP voulant offrir un certain confort et une bonne image des transports, donc à favoriser un certain nombre d'animations à l'intérieur du réseau, sur les quais. Et en même temps, ça a drainé une population qui n'est pas celle de l'ordre des voyageurs, qui se retrouve sur les quais de certaines stations. C'est un lieu de rendez-vous. Et effectivement, de là, on assiste à des manifestations qui sont l'ordre de la drogue, d'agression, vol à la tire. Et bon, depuis une dizaine d'années, les déprédations, comme je disais, sont en augmentation perpétuelle. Il y a également le problème des sans-abri. Il y a plus de 10 ans, on avait 100 ou 200 personnes qui étaient considérées comme sans domicile fixe, alors que maintenant, à l'hiver, on a 1500 personnes qui sont dans le métro, qu'on considère sans abri.
Mais qui vivent en permanence ?
Ils sont surtout installés aux périodes les plus froides, donc quand les conditions climatiques sont extrêmement défavorables, c'est là qu'on a à faire face à ce problème. Bon, l'été, évidemment, ils vont à la surface. Mais
quand j'appelle vivre en permanence, c'est-à-dire y passer la nuit comprise.
La nuit comprise, oui. Enfin, ils ne sont pas les 1500 à dormir dans le métro, Dieu merci, mais il y en a un certain nombre qui restent, qui se cachent dans les rames pour aller dans les garages, ce qui pose des problèmes aussi dans les terminus, parce que un certain nombre de clochards traversent les voies semblant ignorer qu'il y a un courant de traction qui est là de 750 volts et il est arrivé l'année dernière, si mes souvenirs sont exacts, de retrouver un clochard décédé qui avait grillé sur la voie parce que effectivement il traverse les voies. Donc la surveillance générale fait les rondes et donc il y a un certain nombre de clochards qui sont ramassés et qu'on envoie à Nanterre Mais c'est vraiment le problème, hein, le problème des sans-abri maintenant. Et la RATP n'a pas à gérer de A à Z ce problème des sans-abri. Donc il faut qu'un effort soit fait en collaboration avec la ville de Paris pour qu'elle prenne le relais du problème des sans-abri. Donc les sans-abri, plus les agressions, vol à la tire, la drogue, les dealers, les musiciens plus ou moins bons qui sévissent dans le métro, c'est vrai qu'on est arrivé par moments à une saturation. Hein.
Tant qu'à faire de traverser Paris par un réseau souterrain, pourquoi pas en automobile ? Surtout quand on roule en surface à une moyenne de 15 km/h. La ville de Paris envisage ainsi l'ouverture d'une liaison automobile souterraine express régionale, réseau LASER. Un projet encore à l'étude, mais dont la réalisation pourrait commencer en 1989 pour achever un premier tronçon en 1993-94. Robert Dussard, directeur de la voirie de la ville de Paris.
Dans les années 1960-70, un groupe d'études qui s'occupait d'urbanisme souterrain avait été mis en place par un architecte, M. Utujian. Et il avait émis un certain nombre d'idées concernant l'urbanisme souterrain. Et c'est d'ailleurs un peu en vertu de ces idées que les halles ont été réalisées. Mais le grand problème d'implantation souterraine des voies était un problème financier. Or, la société GTM, qui est une entreprise de travaux publics très importante, qui était candidate au souterrain de sous la Manche, avait, à l'occasion de cette candidature, constitué une équipe extrêmement bien rodée et qui devenait disponible. Et ils ont eu l'idée d'étudier des voies souterraines à grande profondeur sous Paris. Pourquoi grande profondeur ? C'est parce que c'est à cette profondeur qu'on rencontre des horizons géologiques comme le calcaire ou la craie, qui permettent des forages au moindre coût. Alors ils ont donc étudié la solution qui consistait à faire des voies de cette nature à travers la banlieue, à travers Paris, avec des gabarits dits réduits, car il faut considérer qu'en ville, 95% des véhicules sont des véhicules légers, de faibles gabarits, donc il est idiot d'imaginer des diamètres considérables pour recevoir les poids lourds. Ça a entraîné deux avantages. D'abord, c'est que la dimension de l'ouvrage était moindre, et ensuite et surtout, c'est que la sécurité était quand même plus importante. Ils ont mis au point ce projet, ils se sont rendus compte que ce projet était équilibré financièrement, moyennant le versement d'un péage de environ 15 à 20 francs par voiture, et ils l'ont proposé à la municipalité. Il est prévu en fait 5 axes principaux, un axe en direction de la Défense, un axe en direction de l'autoroute A6 dans le sud de Paris, un axe en direction de l'est, route Bagnolet, un vers le nord, Roissy, et un vers le sud-ouest, Saint-Cloud. Alors cet ensemble d'axes étant relié entre eux par une voie centrale qui sera ou qui ne sera pas circulaire. Enfin, c'est une voie centrale qui permet d'articuler l'ensemble du dispositif. Mais tout ne va pas être réalisé d'un même coup et immédiatement. En fait, dans l'état actuel des choses, c'est le tronçon Défense-Autoroute du Sud qui est en cours de négociation et en cours d'étude. Et le coût annoncé par le promoteur, et qui est vraisemblable, est de l'ordre de 5 milliards nouveaux. La dépense sera entièrement payée par les péages qui seront perçus par l'exploitant, mais en aucun cas, les budgets des collectivités locales ne seront concernés.
Et on attend un désengorgement, si c'est possible de dire ainsi, qui serait de l'ordre de combien ?
C'est difficile à quantifier. La première tranche, en tout cas, ne représentera pas plus de globalement 5%. Enfin, c'est relativement modéré. En revanche, l'amélioration sera extrêmement sensible sur le tracé de la voie, où l'amélioration pourra atteindre 25% des trafics actuels, mais dans un rayon d'un kilomètre de part et d'autre de la voie. Et extrêmement sera très importante également sur le périphérique sud. Il y aurait le gain d'une file et demie à deux files, ce qui, sur un ouvrage qui est insuffisant, serait particulièrement bénéfique.
Paris souterrain. Une émission de Pascal Lismonde, avec Marc Auger, Philippe Caron, Alain Clément, Robert Dussard, Anne Lauvergeon, François Legrand, Pier Paolo Piccinato, Jacques Stévens. Texte de Raymond Queneau, lu par Pascal Mazzotti. Groupe de réalisation, Josette Étier, Jean Fèvre et Daniel Fontanarosa.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 7 mai 1988.